de voir qu'il y aura de la suite avec ce qu'avait fait Pascal tout à l'heure. Surtout dans les diapos, il disait que voilà, les dernières diapos de tout à l'heure, c'était garder sa parole, la mettre en pratique. Et donc, ce qui m'était inspiré aujourd'hui, c'est notre réponse à sa parole. Alors, j'ai du mal sur le titre. En fait, le seul truc que j'ai eu du Seigneur, c'est « Faut aller dans Hébreux ». Je dis, ça fait un peu lèche tout ça. Mais voilà, je me suis mis devant le Seigneur. Je dis, je dois faire quoi, Seigneur ? Comme d'habitude, hein, y a pas. Et puis j'avais Hébreu et sans savoir vraiment quoi. Donc voilà, j'ai lu Hébreu et puis quand ça m'a parlé, j'ai écrit. Et puis voilà, ça sera le fruit de mes réflexions sur Hébreu. Donc l'épître aux Hébreux, c'est une épître un peu particulière parce qu'on ne sait pas qui l'a écrite. Alors, je sais bien, j'ai toujours envie de l'attribuer à Paul. Mais ça a été le cas pendant un certain temps. Elle a été attribuée à Paul. Mais voilà, à notre époque, ça a tendance à ne plus l'être, en particulier à cause de ce verset-là. Alors, aucun rapport avec ce que je vais dire après, mais c'est pas grave, c'est pour la culture. Hébreux 2, versets 3 et 4. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Alors, ce petit passage-là, le « nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu et Dieu appuyant leur témoignage », ça laisse à penser, c'est pas un argument béton, hein, mais voilà, ça laisse à penser que la personne qui parle là, c'est un converti de deuxième main, on va dire. Voilà, c'est quelqu'un qui a entendu les apôtres, voire quelqu'un qui venait de la part des apôtres, qui a entendu l'évangile comme ça, et donc ça correspond pas vraiment à la définition de Paul. Voilà, il n'y a rien de très solide là-dessus, mais c'est quand même un des arguments qui est avancé pour dire que ce n'est pas Paul. Maintenant, peu importe. L'autre argument quand même, c'est que contrairement à toutes les autres épîtres, on n'a pas de salutation. Donc forcément, voilà, on ne sait pas qui c'est. D'habitude, on a Paul, aux chrétiens d'eux, au sein d'eux, et puis voilà, on sait tout de suite. Là, ce n'est pas le cas. On ne sait pas si ça a été coupé ou pas. Ça démarre un peu brut de fonderie, mais voilà. Ça ne change pas grand-chose au texte hein, derrière. Alors, pour appuyer un peu, encore un peu ça, on ne sait pas à qui c'est adressé non plus, précisément. On ne sait pas si c'est adressé à une assemblée en particulier, à un groupe. Voilà, on a quelques éléments, là encore dans le texte, hein, qui nous disent que c'était des juifs, visiblement. Des juifs convertis, hein, ils comprenaient les choses qui venaient du Seigneur. Des juifs parce que ça parle de tout ce qui était dans la loi, en fait. Hein, tout ce qui était fait autour du tabernacle, du service du tabernacle, des lévites, tout ce qui était dans le... dans le lieu très saint, il y a ça tout au long de l'épître aux Hébreux. Donc c'est des gens en face qui comprenaient ça et à qui ça parlait, plus que nous, finalement. Donc voilà, on ne sait pas qui l'a écrit, on ne sait pas à qui ça va, tout ça, enfin, pas exactement en tout cas. Qui l'a écrit, ouais, dans les propositions, il y a Luc, des fois Barnabas, Silas, Apollos ou Aquilas et Priscille. Donc voilà, ça laisse le choix qui vous voulez. Il reste le message, du coup. C'est le plus important, en fait. Hein. Après, qu'il a écrit, pourquoi ? Bon, des fois, ça aide, hein, ça donne le contexte et ça nous explique comment on peut le comprendre mieux. Mais en tout cas, il reste le message. La première chose qui saute aux yeux quand on lit Hébreu, c'est qu'il y a cette comparaison du début à la fin entre l'ancienne alliance et la nouvelle. On voit ça vraiment tout au long de l'épître. Et j'avoue que quand j'ai lu... Enfin, je lis l'épître plusieurs fois par an, du coup. Et c'est toujours ça qui m'a percuté. Il me dit, c'est très, très ancienne alliance, nouvelle alliance. Bon, voilà, c'est intéressant, mais bon, ça fait beaucoup appel à la religion juive, finalement, à tout ce qui est Ancien Testament. Et en vrai, quand on le lit, il y a tout un tas d'exhortations qui sont dedans. Et je pense qu'on peut vite passer au-dessus, alors qu'en vrai, c'est ça qui est important. Bien sûr, l'auteur, il explique l'ancienne, la nouvelle, et dit que la nouvelle, elle est plus importante. Il y a quelque chose de plus que l'ancienne alliance. Mais là-dessus, il construit quelque chose, il construit un argumentaire, en fait. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre pour nous. Donc, dans le verset qu'on lit là, déjà, hein, il nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Et qui annonçait d'abord, voilà, le reste, je l'ai déjà lu aussi. Donc, on a déjà cette idée de « Il ne faut pas négliger le salut. » Et c'est un salut qui est plus grand que ce qui a été proposé, finalement, au travers de l'ancienne alliance. D'accord ? Dans le premier chapitre aux Hébreux, donc ça c'est déjà le chapitre 2, hein, je prends un peu d'avance, mais voilà. Si on revient au premier chapitre, ça commence tout de suite en mettant la différence entre le Fils et les anges, et les prophètes. Surtout les anges dans le chapitre 1, en fait. Et dans les propos de l'auteur, on voit que tout ce qui est lié à Jésus, ça a une place particulière. Il dit, voilà, on a les anges, il y avait ça, Dieu, il a envoyé des anges pour servir, pour faire ci, pour faire ça, mais le Fils. Et on voit bien qu'il y a ce contraste entre le Fils et les autres. On voit après la comparaison entre Moïse et Aaron, donc qui étaient un peu les dépositaires de l'ancienne alliance, et Jésus à côté aussi. Et à chaque fois, c'est la supériorité de Jésus qui est mise en valeur, qui est mise en avant, en fait, dans tout ça. Donc chaque fois on a ça, alors moi je me suis arrêté au chapitre 3, mais on va pas arrêter de tourner dans Hébreux hein, finalement. Et le chapitre 3, on voit un premier avertissement. On nous dit que quelque part les deux premiers chapitres, ils mettent le tableau, ils nous montrent l'ancienne, la nouvelle alliance, tout ce qu'il y avait et Jésus. Et à chaque fois on dit voilà, mais Jésus et Jésus. Et on sent qu'il y a quelque chose de différent. Et on arrive à ce premier avertissement en Hébreux 3, versets 7 à 9. C'est pourquoi... Voilà, il conclut de ces deux premiers chapitres et du début du chapitre 3. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Donc, Paul, il nous parle... Paul, pardon, je suis reparti. L'auteur, bon voilà, vous m'excuserez hein, si je lâche encore un Paul de temps en temps, mais j'y ai cru pendant longtemps. L'auteur, il nous parle de Christ et qu'est-ce qu'il conclut? Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, vous avez, quel est le lien, quoi? Ça sort un peu de nulle part, quelque part. Mais ça nous montre qu'il y a un appel plus important au travers du Fils qu'au travers de tout le reste qui a été décrit. Pourtant, on nous a parlé voilà, des anges, des prophètes, de la loi, d'un tas de choses. Hein. Et il dit, mais voilà, maintenant, c'est le Fils. Et donc, il ne faut pas négliger l'appel qui vient du Fils. On lit dans Job, alors je ne l'ai pas recopié ici, Job 33, ça nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ». Il parle par des songes, par des visions nocturnes, voilà, par toutes sortes de choses. Là, il y a des choses qui sont citées en Job 33. Mais on voit bien que Dieu il nous parle par vraiment un tas de moyens différents. Le peuple d'Israël, il a entendu la parole au travers de Moïse. C'était la voix de Dieu pour lui, quelque part. Il l'a eu au travers de la loi aussi. C'était une forme de parole de Dieu. Il a eu la parole par des anges, par des prophètes. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois là depuis le début. Et tout ce que dit l'Épître aux Hébreux, c'est la voix du Fils, elle est bien plus importante que les autres voix. Si vous avez négligé les premières, je ne vais pas dire que c'est bien. Je ne vais pas dire que ce n'est pas grave non plus. Mais ne négligez pas celle du Fils qui arrive après. Voilà. C'est un peu le dernier appel qui reste. Il n'y a pas mieux après. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Et donc, il ne faut pas passer à côté de l'appel qui vient du Fils. Et déjà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que moi, je l'ai entendu, cet appel? Est-ce que pourquoi je suis là ce matin? Par habitude, parce qu'on m'a parlé, parce que c'est un voisin, un ami, un collègue, peu importe. Hein, parce que c'était dans la famille, comme ça, c'était une culture, je ne sais pas trop, une tradition. Il peut y avoir tout un tas de raisons qui font qu'on est ici. Mais à un moment donné, on doit avoir entendu la parole du Fils, on doit avoir entendu sa voix. Et ça, il ne faut pas le négliger. Il dit, ce n'est pas qu'il faut négliger le reste non plus, mais bon, dans nos vies, on a souvent négligé le reste, en fait. Et quand on arrive à l'appel du Fils, il ne faut pas le négliger. Et donc, pour nous, la question, c'est ça, c'est est-ce que j'ai entendu le Fils dans ma vie? Est-ce que je l'ai entendu me parler? Est-ce que c'est lui qui m'a guidé et c'est pour ça que je suis ici? Sinon, ben voilà, la première étape, c'est de le chercher. C'est-à-dire, ben, Seigneur, je veux t'entendre. Je veux entendre ta parole, je veux entendre ta voix, parce que ta parole me dit de ne pas négliger ta voix. Donc, je veux la chercher. Il est la vérité, et du coup, si on veut connaître la vérité, on n'a pas d'autre choix que d'aller à lui. Je fais référence à d'anciennes prédications, on ne va pas tout refaire. Mais voilà. On pourrait se dire, ben ouais, c'est bon, c'est bien le Seigneur qui m'a appelé et qui fait que je suis là dans l'Église, et donc, ben... Voilà quoi, maintenant je continue ma vie chrétienne jusqu'à ce que je le rencontre à la fin et puis c'est tout. Mais non, on continue à avoir besoin de sa voix. On continue d'avoir besoin d'être nourri, d'avoir de l'eau qui vient de lui, d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre en fait. On ne peut pas se contenter juste de l'appel initial et dire après, voilà, moi j'ai plus rien besoin. On continue à le chercher. Quelques versets plus loin, on lit, « Aussi je fus irrité contre cette génération » Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc le peuple, hébreu, il a refusé d'écouter celui qui leur parlait. Il a endurci son cœur. Et la conséquence de ça, c'est que toute la génération qui n'avait pas voulu écouter Dieu, eh ben, il leur a refusé son repos. Alors, c'était quoi le repos ? Alors, pour eux, c'était le pays promis. C'était d'arrêter d'être des vagabonds, d'être dans un pays étranger, d'arriver dans le pays promis, d'en prendre possession et de vivre en paix. Ça, c'est la première interprétation de ça. Mais on sait bien que nous, le repos, c'est pas ça. C'est pas, il y a un pays quelque part qui existe sur la planète où on va aller, on sera bien et voilà. C'est, il y a un pays spirituel dans lequel on doit rentrer, dans lequel on va bénéficier du repos de Dieu. Il faut y rentrer et si on refuse d'écouter sa parole, eh ben les portes, elles sont fermées. En fait, on n'y rentre pas et on finira par mourir en dehors de ce pays-là. Le message de Dieu à notre encontre, c'est ça. Le message de Dieu à l'encontre du peuple hébreu, c'était « Mais prenez possession de votre pays, le pays que je vous ai préparé, que j'ai promis à vos pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Prenez possession de ce pays-là. » Et le peuple, il a refusé d'écouter ça. Et donc le parallèle, il est là avec nous. Hein. Dieu, il a un pays promis pour nous. Est-ce qu'on l'écoute ? Ou est-ce qu'on dit « Bah, ouais, moi c'est bon, je me suis converti, tout va bien. » Voilà, on ne s'arrête pas là, en fait. On doit prendre possession du pays, comme ça s'est pas arrêté avec Moïse, qui a délivré le peuple de l'Égypte, en fait. C'est Dieu qui a délivré le peuple au travers de Moïse. Après, ça continue avec Josué, il a fallu prendre possession du pays. Alors, pour nous, l'application, elle peut pas être pratique. Quand on parle de repos de Dieu, alors, encore une fois, certaines fois bien particulières, on bénéficie du repos physique de Dieu. Certaines fois. Mais c'est pas tout le temps. Je pense encore une fois aux chrétiens persécutés. Pour certains, ils n'ont pas ce repos-là. Ils subissent la persécution toute leur vie, jusqu'à la fin, jusqu'à mourir, jusqu'à souffrir. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas bénéficié du repos de Dieu. Le repos de Dieu, il est spirituel avant tout. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il continue encore avec un nouvel avertissement, une exhortation, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc, Hébreux 3, versets 12 à 13, c'est juste après. On a lu 10, 11 juste avant. Prenez garde, frères. Ouais, je les ai soulignés aussi là. Frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. On dira, ben non, nous, on n'est pas comme ça. On est dans l'Église, on n'est pas incrédule, on croit ce que le Seigneur nous dit et voilà. Mais ça ne nous dit pas qu'on est comme ça. Il dit « Prenez garde que quelqu'un ne devienne comme ça ». On le comprend aussi. Hein. Il parle à des chrétiens et il dit « Attention, ne chutez pas, faites attention ». Et c'est « Prenez garde », tous ces mots « veillez », combien de fois on les retrouve dans la parole ? Combien de fois ? Pourquoi ? Bah parce que c'est un risque. C'est pas parce qu'on est tous mauvais, enfin, on est tous mauvais par nature, mais... C'est pas que tous les chrétiens sont mauvais et voilà, c'est que tous les chrétiens ont ce risque de tomber. Et donc il faut faire attention, il faut veiller. Et qu'est-ce que je peux faire pour prendre garde ? Bah la réponse elle est juste en dessous en fait. Hein. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. J'avais envie de rigoler, mais si vous avez quelqu'un comme Maï qui vous envoie des versets tous les jours, vous dites ah zut, arrête un peu avec tous tes versets. Ah, c'est pas un bon verset celui-là, il dit « Exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui ». Donc c'est-à-dire qu'elle a le droit de continuer. Je rigole, après, exhorter les gens, c'est pas que balancer des versets à la figure. Hein. D'accord ? Et c'est pas ce qu'elle fait non plus. Attention, je ne veux pas créer encore un problème de couple. Mais ça fait partie de ça. Ça fait partie de « Prenez garde, exhortez-vous ». Exhortez-vous, c'est pas que nous-mêmes, en fait. Hein. C'est pas tous les matins, je lis un verset pour m'exhorter moi-même. C'est on prend soin les uns des autres et on regarde que les frères, ils tombent pas. On les relève s'ils tombent. Et voilà, on prend soin les uns des autres. On s'élève les uns les autres, on veille les uns sur les autres. Aujourd'hui, oui, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, « afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché ». Combien de fois la Bible, elle nous dit « veillez ». Veiller sur nous-mêmes ou veiller les uns sur les autres, il y a vraiment toutes les formulations. Alors j'en ai pris quelques-unes, après il y en a tout plein. Hein. Dans la Bible, si vous tapez prenez une concordance, vous cherchez veiller, voilà, vous avez de quoi déjà réfléchir un bon moment. J'en ai quand même sélectionné quelques-uns là-dedans. Il y a Deutéronome 4, 23 qui dit « Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traité avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Je trouve que ça s'adapte bien en fait. Hein. C'est très Ancien Testament, hein, c'est la loi. Mais en fait, si on le prend pour nous, veillez sur vous afin de ne pas mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée. Il n'y a pas de changement à faire, hein, ça s'applique à nous. Le Seigneur, il a fait une alliance avec nous. Et on nous dit, bah, veillez pour ne pas l'oublier, en fait, hein, si on simplifie un peu la phrase. Et de ne pas partir dans autre chose, de ne pas avoir un autre Dieu, de ne pas partir dans l'idolâtrie. Josué 23, verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Déjà, veillez. C'est faire attention, hein, c'est-à-dire qu'on est, opérationnel et voilà, on surveille. Quand on roule, normalement, on veille. Voilà, on ne s'endort pas. Mais veillez attentivement sur vos âmes. Il y a les deux mots pour montrer à quel point c'est important. Hein. Veillez sur vos âmes. Pour revenir dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres. Et un peu plus loin, chapitre 12, versets 15 à 16, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça aussi, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est pas que Dieu, lui, va couper sa grâce et qu'il va dire, bah non, tu n'y as pas droit, toi. C'est veillez que vous ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Parce qu'en faisant certaines choses, on met une barrière entre nous et Dieu, en fait. Que lui peut toujours franchir, c'est sûr. Mais si on continue à ériger cette barrière, on dit, bah toi, je veux pas de ta grâce. C'est ça qu'on lui dit, en fait. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Il y a tout un tas d'exhortations à veiller. Je vous dis, on peut faire une prédication rien que sur ça et on n'aurait pas assez d'une prédication. Donc je vous disais au début, hein, sur l'Épître aux Hébreux, moi j'avais toujours vu ce côté ancienne alliance, nouvelle alliance, et puis voilà, quelque part ça ne me passionnait pas forcément, parce que c'est pas facile à comprendre en fait. Hein. Faut fouiller, il y a toute une signification des couleurs, de ce qui était fait, voilà, il y a tout un sens caché à tout ça, hein, et qui n'est pas facile à comprendre. Après voilà, faut chercher, faut fouiller, faut comparer avec l'Ancien Testament, faut prier. Et il y a des gens qui ont aussi étudié ça, qui peuvent nous expliquer. Mais il y a vraiment toutes ces exhortations qu'on trouve aussi et qui sont super intéressantes pour nous. Alors, je viens déjà d'en donner une série. Hein, là, toutes les deux précédentes, c'était Hébreux. On a lu Hébreux 2, Hébreux 3. Il y a cette phrase qu'on retrouve aussi dans Hébreux tout le temps. « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » On la trouve trois fois. Je les ai collées sur la même diapo. Ça fait un peu gros pâté sur la diapo, mais tant pis. Hébreux 3, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et après c'est n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne sais pas si je les ai recopiés. Non, je ne les ai pas recopiés sur ma feuille. Voilà. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Hébreux 3, verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Donc là, c'est une répétition. Et Hébreux 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mais trois fois. Il y a aujourd'hui, pendant qu'il est dit aujourd'hui, et Dieu fixe de nouveau un jour où il dit aujourd'hui. Dieu, il manque pas de patience avec nous. Hein. C'était censé être aujourd'hui, et finalement, il a dit, voilà, pendant que c'est encore aujourd'hui, et à la fin, il dit, je fais un nouveau aujourd'hui, pour que tu aies encore l'occasion de m'écouter, tu aies encore l'occasion de m'obéir. On a d'autres avertissements dans Hébreux. Hein. Tout doucement, j'avance. Dans Hébreux 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il y a pour moi un élément intéressant là-dedans qu'on ajoute à la réflexion qu'on a depuis le début. Donc ça nous dit, voilà, ils ne sont pas entrés dans le repos, en fait, hein, de Dieu, parce qu'ils ont refusé d'entendre sa voix. Et il dit, voilà, la promesse, elle est encore là, en fait. Hein, la promesse d'entrer dans son repos, elle subsiste encore, elle est encore là, elle est encore disponible. Et faites attention de ne pas arriver trop tard, en fait. Comme si vous étiez arrivé trop tard et que aujourd'hui, il s'était terminé. Il dit, parce que eux, ça leur a servi à rien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors ça nous explique pourquoi, en fait. Hein. pourquoi ça n'a pas fait d'effet dans leur cœur. Alors, comme la semence, vous connaissez hein, tous la parabole du semeur, la semence, elle ne porte pas de fruit quand elle tombe dans les pierres, dans la terre pas assez profonde, ou dans celle qui contient des mauvaises herbes, bah, la parole de Dieu, c'est pareil. Quand elle tombe dans le cœur qui est mauvais, elle ne porte pas de fruit. À un moment donné, Dieu permet qu'elle porte du fruit quand même hein, chez certaines personnes, parce que sinon, ça n'aurait jamais porté de fruit dans toute l'humanité. On est tous mauvais par nature. Mais voilà, il y a un moment donné où on endurcit nos cœurs. Et là, on devient comme cette terre qui est trop dure, la semence, elle ne tombe pas, et donc elle ne porte pas de fruit. Alors, comme je crois à la prédestination, vous allez me dire, bah, de toute façon, moi, je ne peux rien faire, c'est la foi que Dieu il a mis en moi, et donc, voilà, je suis pas coupable, en fait, c'est pas de ma faute, tout ça, si j'ai pas la foi. Elle vient de Dieu, c'est comme ça. Et c'est effectivement Dieu qui donne de croire, et c'est Dieu qui donne la foi aussi. Mais, alors, si vous étiez là le mardi soir, on l'a amplement développé, je crois aussi qu'on a chacun notre responsabilité devant Dieu. C'est très, très clair dans la parole, on ne peut pas nier ça, en fait. On a chacun notre responsabilité. Et en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, on sera jugé par Dieu. Et voilà, on a dit amplement hein, le mardi soir, je ne refais pas une prédiction sur la prédestination, ce n'est pas le but du jeu. Mais voilà, il ne faut pas annuler ces choses-là et se dire, moi, voilà, ce n'est pas de ma faute. Ça, c'est un des travers de la prédestination qu'il faut lutter contre. On est parfaitement responsable de ce qu'on fait. Et tout ce qu'on lit depuis le début, c'est ça, en fait. Hein. Quand on dit veillez les uns sur les autres, retenez fermement tous ces mots qu'on voit, c'est parce qu'on a notre responsabilité, notre travail à faire. Dire c'est pas ma faute, c'est une forme de fatalisme, en fait. Hein. Il y a ça aussi, quelque part, dans l'islam. Hein. Mais c'est nier notre responsabilité et se dire, voilà, moi, j'y peux rien, c'est pas ma faute, et donc je pourrais pas être jugé. Donc Dieu, il peut rien me faire, en fait, quelque part. Et pourtant, c'est pas comme ça que ça va marcher. On ira tous en jugement. Donc si on fait notre part à nous, le Seigneur, il fait la sienne. Et ce n'est pas à nous à commencer à chercher à comprendre, bah ouais, mais c'est plus lui, c'est plus moi, machin. Peu importe, on a notre part à faire, le constat, il est là. Notre part à faire, c'est quoi? C'est de choisir ce qu'on fait de sa parole. On revient à Hébreux, hein, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Notre part, c'est d'écouter sa voix, et c'est d'obéir, c'est d'agir en fonction. L'endurcissement, c'est suite Pharaon, en fait. Pharaon, il a endurci son cœur. Il a entendu la parole, il a laissé aller le peuple une fois, deux fois, enfin, il a laissé aller en mettant des arrangements à sa sauce à lui, et puis à la fin, il a fermé complètement la porte, et voilà, Dieu, il a endurci son cœur. On voit ce jeu entre les deux à ce moment-là, hein, enfin, ce jeu. Dans la Bible, on entend, alors dans la Bible, on a une formulation, nous, on va dire, on ferme notre cœur. C'est aussi une formulation qu'on peut endurcir son cœur, c'est fermer son cœur. Comme s'il y avait des portes et on dit, bah, c'est fermé, et puis ça passera pas, ça rentrera pas. Dans la parole, on a endurcir son cœur. C'est vrai que nous, ça nous paraît un peu bizarre, mais endurcir, c'est pareil. Hein. Le cœur, il devient tellement dur que ça pénètre plus. C'est de la terre qui est trop dure pour que ça rentre. La Bible, elle emploie aussi tout un tas d'expressions qui sont liées à nos entrailles, à notre cœur. On dit le cœur, c'est les entrailles aussi. C'est une manière de parler du cœur, des sentiments qu'on a et de nos réactions. Tout ça, c'est lié. Et l'image qui m'a semblé parlante, c'est celle des deux femmes qui se présentent devant Salomon. Vous savez, c'est 1 roi 3. Alors, ça va du verset 16 à 30, donc je n'ai pas tout repris là. Mais chacune a accouché d'un enfant. Et en fait, quand elles se présentent devant Salomon, elles n'en ont qu'un. Parce qu'il y en a un qui est mort. Et alors, elle commence à chamailler devant le roi en disant « Non, mais ça, c'est le mien, c'est mon enfant. Non, c'est le mien. » Elle a dormi pendant la nuit, elle a écrasé le sien, elle veut prendre le mien. Voilà. Ça se dispute comme ça. Et le roi lui-même, il leur dit... Voilà, le roi le dit, c'est Salomon, hein, 1 roi 3, verset 23. L'une dit « C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit « Nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. » On a l'impression de voir des enfants. Hein. On est à la maison, là. Puis il ajouta « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi, et le roi dit « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Rien que de lire, c'est dur. C'est pas de mon fils dont il est question. Je rigolais tout à l'heure quand on disait « Imaginez sacrifier un enfant. » Je regarde Raphaël, je dis « Bah, les deux. » Il fait « Oh !» Mais en fait, rien que de lire ça, ça me prend aux tripes, et voilà, bon. La réaction, on la lit un peu après. La femme dont le fils était vivant sentit... Argue, je vous l'avais, tant pis. la suite. La femme, pardon, vous aurez la fin, la conclusion. La femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » Il est dur, ce passage. Et cette dame, cette réaction de dire, « Bah non, à personne, allez, coupez-le, puis au moins ce sera réglé. » C'est horrible de répondre comme ça. Et l'autre, par contre, elle réagit comment? On nous dit, elle sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et en fait, c'est ça. C'est ça, cette réaction qu'on doit avoir quand la parole de Dieu, elle arrive pour nous. C'est nos entrailles qui s'émeuvent pour ça, qui disent, « Ok, Seigneur, prends tout, prends tout. » Et tant pis. Parce que, quand même, quand on regarde, hein, elles vivaient ensemble, ces deux dames, hein, on dit que c'est deux prostituées. Donc voilà, elles savent toutes les deux qu'elles ont une vie pas très claire, qui ne plaît pas au Seigneur. Elles ne devraient même pas se présenter devant le roi, en fait. Hein. D'ailleurs, elles devraient mourir, c'était le jugement pour les prostituées. En tout cas, il les accepte et elle dit, bah, donnez-lui l'enfant et qu'il vive. Et elle est en train de dire, bah, voilà, c'est mon propre enfant, je le donne à quelqu'un d'autre, bah, déjà ça. Et elle est en train de le donner à une prostituée qui est une menteuse en plus, parce qu'elle était prête à ce que l'enfant y meure, quoi. Mais voilà, elle en est arrivée là, la parole du roi, elle est tombée et elle a laissé son cœur être touché et elle a répondu comme il fallait. Et finalement, elle a eu gain de cause à la fin. L'autre, eh ben, elle a fermé son cœur, elle s'est endurcie. Voilà. On ne parle pas de ses entrailles à elle, mais voilà, on voit bien que l'amour d'une mère pour son enfant, il n'y est plus là. Hein. Et donc, elle ferme, et puis tant pis, c'est tout. Qui meurt, et puis c'est comme ça. Donc, je pense qu'on a ce double côté voilà, qu'on retrouvait dans Hébreux tout à l'heure, hein, de recevoir la parole, de ne pas s'endurcir, de ne pas la négliger. Eh ben, c'est cette dame, cette femme, qui dit, bah, ok, c'est bon, donnez-lui, tant pis. Moi, je n'aurai plus rien, mais au moins, il sera vivant. Et on doit se mettre devant le Seigneur et quand on reçoit sa parole, réagir de la même manière, avoir le cœur qui, les entrailles qui s'émeuvent. J'aime bien cette formulation, elle est magnifique. Donc j'avais jamais fait attention avant, je disais à Maï quand j'étais en train de préparer, je l'avais déjà lu plein de fois aussi, hein, mais que c'est toutes les deux des prostituées. Alors je sais pas forcément, j'ai pas de réponse définitive sur pourquoi c'est clairement mentionné ici. On peut dire, bah, ça explique, c'est ce qu'on disait avec Maï, ça explique le fait qu'elles sont toutes les deux dans la maison, sans homme avec elles. Et voilà, hein, mais elles le précisent elles-mêmes, ça, en fait. Donc, on n'aurait pas besoin de dire qu'elles sont prostituées. Elles disent toutes les deux, alors je ne voulais pas citer ici, hein, mais avant, dans 1 Roi 3, elles disent, on habite toutes les deux et il n'y a pas d'homme dans notre maison. On a retrouvé l'enfant mort, mais il n'y a pas d'homme. Ça exclut vraiment toute possibilité que l'enfant, il y a une intervention extérieure, en fait. Voilà, sont des prostituées. Alors moi, ça me travaille, ça. Et pour moi, selon la loi, elles devaient mourir, ces femmes. Et c'est intéressant parce que le roi, il leur donne audience, il donne sa parole, et après, on voit qu'il y a un résultat qui est d'un côté la vie, et de l'autre côté, bah, Lot, elle a son fils qui reste mort, en fait. Hein. Elle reste avec un mort. Et je trouve que le parallèle avec nous, bah, du coup, il se tient bien. Hein. On n'est pas mieux qu'elle, on est pécheurs, comme ces femmes prostituées. On est des prostituées aux yeux de Dieu avant de le connaître. Hein. On a du mal à se qualifier comme ça. Mais en fait, quand on va voir quelqu'un d'autre que Dieu, eh ben, on est des prostituées spirituelles. Et donc, on est comme ces prostituées. On va devant le roi. Il prononce un jugement, il prononce une parole. Et quelle est notre réaction? Est-ce qu'on a le cœur qui est touché et qu'on dit, ok, vas-y, prends tout, Seigneur? Vous voyez que le prends tout, il ne prend pas tout à fait le même sens hein, quand c'est nous qui le disons. Est-ce qu'on dit, bah, hey, après tout, tu décides, c'est toi qui fais vivre, mourir, bah, fais mourir et puis c'est tout. Hein. Moi, j'y peux rien. Et ça, c'est ce côté prédestination poussé à l'extrême de toute façon, c'est toi qui donnes la foi, moi, j'y peux rien. Cette deuxième femme qui a récupéré son enfant, ou cette première, on ne sait pas, c'est tellement mélangé qu'on ne sait jamais qui est la première, la deuxième, on n'a pas leur nom. C'est très générique qui fait qu'on peut. On sent qu'on peut en tirer quelque chose de plus large que cette simple histoire, en fait. Mais elle a récupéré son enfant. Et ce ne sera plus jamais l'enfant d'une prostituée, ce sera l'enfant que le roi a sauvé. Et ça aussi, je crois que c'est important pour nous. Ça change complètement la vie de ce gamin, en fait. Quand il va grandir, c'est « Ah, moi j'ai eu la vie sauve grâce au roi. C'est le roi qui m'a sauvé la vie. » Donc on voit qu'il y a il y a ces choses intéressantes pour nous à savoir dans cette histoire-là. Alors cette histoire des deux femmes qui se présentent dans Salomon, elle illustre à merveille ce qu'on trouve un peu plus loin dans Hébreux. Quand on continue dans Hébreux 4, c'est aussi pour ça je pense que j'ai pensé à cette histoire-là, hein. Hébreux 4, versets 11 à 13, ça nous dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos ». J'insiste, hein, « Efforçons-nous donc », c'est-à-dire qu'il y a encore un effort de notre part, « afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Vous voyez qu'on est dans l'avertissement, hein, « Efforçons-nous donc », on est dans la droite ligne de ce qu'on a vu jusqu'ici, avec le « Prenez garde, exhortez-vous, et afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse », ici c'est « Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance ». C'est-à-dire qu'il parle à des gens qui sont debout, il leur dit « Faites gaffe de ne pas tomber ». Prenez garde, exhortez-vous, craignez donc, efforçons-nous donc. Tous ces verbes-là, c'est de l'impératif. Ça souligne l'idée qu'on a notre travail à faire. Et bien sûr, cette mention de la parole de Dieu qui est vivante et efficace et qui tranche. Et on voit ces paroles de Salomon, en fait, hein. Ça venait directement. Et c'est à ces paroles-là, ça a été une reconnaissance publique qu'il avait la sagesse de Dieu. Et finalement, que Dieu parlait au travers de lui, en tout cas à ce moment-là. Après sa vie, il a basculé. Justement, lui, c'est un exemple de personne qui probablement est tombée bien bas. Mais en tout cas, à ce moment-là, il a une parole de Dieu qui tranche et qui, voilà, qui montre à tout le monde, celle-là, c'est la vraie maman, celle-là, c'est pas la vraie maman. Et au-delà de c'est la vraie ou la fausse maman, ou la menteuse, il y a cette idée de ça montre, on lit ici, hein, les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle fait ça. Et en fonction de comment on va réagir à la parole de Dieu, eh ben ça montrera ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Là aussi, Salomon, pour lui, tout ça, c'était... Il n'y avait rien de vide. Enfin, de nos yeux à nous, quand on lit l'histoire, on se dit, bah, comment on va gérer ça ? Un peu comme avec les enfants, hein, quand ils se disputent, ouais, mais c'est lui qui a commencé, qui a fait ci, non, c'est l'autre, et voilà. C'est exactement la même situation. Et quand on est parent, des fois, on se dit, j'étais pas là, moi, comment je peux savoir maintenant ? Alors, des fois, on punit équitablement, on essaye de creuser, de savoir, enfin, voilà, on essaye. Mais là, voilà, il y a la parole de Dieu, elle essaye pas. Elle y va, elle tranche, elle coupe, et ce qui était caché, ce que personne n'a vu dans cette pièce où il n'y avait que les deux femmes et les deux enfants, personne d'autre, aucune intervention possible extérieure, ça vient à la lumière. Et c'est ça que fait la parole, en fait. Ça prend ce qui est à l'intérieur de nous, ce que personne ne peut voir, et ça le sort en pleine lumière. Et c'est comme ça qu'après on peut être jugé, en fait. Alors je veux... Alors, terminer. J'ai encore une page et les poussières. Hein. C'est pas totalement terminé, mais on arrive vers la fin. Je suis jamais très très long normalement. Mais je m'étais dit, ok, ça c'est nos entrailles à nous. Et en fait, quand j'ai cherché les versets qui parlaient de nos entrailles, notre manière de réagir, eh ben il y a des versets qui parlent des entrailles de Dieu aussi. Et ceux-là, ils sont intéressants à voir aussi. Alors, j'avais déjà passé. Bon. Jérémie 31, versets 18 à 20. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Un petit tiret, parce qu'après c'est Dieu qui parle. Et Dieu il dit, Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri ? Un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. Alors, bien sûr, là encore une fois, hein, c'est un verset qui parle d'Éphraïm, donc les 10 tribus du Nord qui sont séparées de Juda et Benjamin. Mais encore une fois, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça, c'est tout à fait valable pour nous. On voit cette repentance d'Éphraïm hein, qui dit « Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus. » Et ça, c'est l'état dans lequel on doit être à un moment donné quand la parole elle nous touche. Et Dieu, il dit, alors c'est formulé en question dans le... Alors c'est la seconde, c'est ça, ouais. Dans la Louis II. Mais quand on prend la version du Semeur que j'ai mise là, ça nous le met en affirmatif, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une traduction là qui n'est pas forcément évidente à faire. Mais le même verset 20, « Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Mon cœur est en émoi. J'aurai pour lui beaucoup de compassion. L'Éternel le déclare. » Lu comme ça, c'est bien parce que le questionnement dit « Ah, mais du coup, s'il le pense vraiment, si c'est une question... » Et là, c'est bien, c'est en affirmatif, c'est clair. Donc, on voit le cœur de Dieu et du coup, ses entrailles qui sont émues pour nous. Et ils sont émus pourquoi ? Parce qu'ils voient un enfant repentant qui écoute sa parole, qui est touché et qui obéit. Si on est comme ça, si on est comme Éphraïm, comme cette maman dont c'était vraiment l'enfant, eh ben le comportement de Dieu envers nous, ce sera ça aussi en fait. Ce sera, tu es mon enfant chéri, ton souvenir est en moi, mes entrailles sont émues en ta faveur et j'aurai pitié de toi. J'aime beaucoup citer l'Ancien Testament, hein, mais j'essaye aussi d'équilibrer avec le Nouveau pour vous montrer que ancien et nouveau, ça colle, hein, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de différence. Et je vous souligne quand même que ça, c'est de l'Ancien Testament et ça parle d'un Dieu qui aime profondément. Voilà. Je lutte toujours contre cette idée que dans l'Ancien Testament, Dieu, il est dur, il est méchant presque. Hein, et ce n'est pas le cas du tout. Dans le Nouveau Testament, Luc 1, donc ça, c'est à l'annonce de... non, c'est pas l'annonce. Je crois que c'est Siméon qui reçoit l'enfant dans ses bras. Hein, ou alors, Marie, je ne sais plus. Luc 1, verset 76, en tout cas, c'est un des deux. Il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Pas du tout. C'est Jean-Baptiste, ouais. Voilà, on va y arriver. « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Donc, on voit encore une fois hein, la question de la repentance, du salut. Et ça dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » C'est la même chose en fait. Hein. Et la venue de Jésus, c'est quoi ? C'est la preuve des entrailles de la miséricorde de notre Dieu. C'est le soleil levant dont il est question ici, qui nous a visités d'en haut, qui vient nous éclairer, qui vient nous diriger. Donc Jésus, c'est la marque visible des entrailles de Dieu, du cœur de Dieu pour nous. Donc si vous lisez, je vous encourage à le faire, l'Épître aux Hébreux par vous-même, vous verrez, il y a tout un tas d'autres exhortations. J'en ai déjà pris une série ici. Hein. Mais voilà, des mises en garde, des avertissements. Et après, comme tout écrit, il y a des choses des fois un peu plus compliquées à comprendre. Hein. Ces comparaisons avec l'Ancien Testament, ce n'est pas toujours évident. Mais ce n'est pas une raison pour le laisser de côté. C'est un livre magnifique et à chaque chapitre, il y a une exhortation comme ça. Donc, lisez-le, prenez juste ce que vous comprenez, c'est pas grave. Le reste, le Seigneur, il montrera après et puis voilà. Hein. Mais il y a tout un tas de choses qu'on peut comprendre très facilement. Je pense que les versets qu'on a affichés là, on les comprend, enfin, on les lit, on les comprend. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Je reprends les avertissements. Ne négligeons pas un si grand salut. Ne négligeons pas la parole de Dieu, son appel ou sa voix. Il n'y a rien de plus important. Ça passe au-delà de tout, les anges, les prophètes, tout ce que vous voulez. La création, on sait que la création nous parle aussi. Mais là, la voix du Fils de Dieu, elle est au-dessus de tout ça. Veillons les uns sur les autres. Prenons à cœur ce qui nous est dit. Laissons-nous toucher et laissons la parole de Dieu agir dans notre vie pour ne pas tomber dans l'incrédulité. L'incrédulité, ce n'est pas juste une disposition initiale du cœur. C'est nous-mêmes, par nos actions, qui fermons la porte à Dieu, qui disons bah, « Non, en fait, j'écoute pas, je n'obéis pas. » Et à force, on s'enfonce. Efforçons-nous donc d'entrer dans son repos. C'est-à-dire, c'est dimanche et je vous dis, il faut s'efforcer, il faut travailler, il faut veiller. Voilà. Et c'est le travail de tous les jours, ce n'est pas que dimanche. Et terminer avec Colossiens 3, verset 12. Paul, il nous dit, là c'est Paul. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il y a du boulot pour moi aussi, hein, si ça peut vous rassurer. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Avec les versets qu'on a lus avant, revêtez-vous des entrailles que Dieu lui-même, il a pour les hommes. Amen. C'est valable pour notre relation avec lui, c'est valable pour notre relation les uns avec les autres, en fait, tout ça. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour l'épître aux Hébreux. Seigneur, merci parce qu'on ne sait pas à qui tu l'as donné, cet épître, mais il a eu tellement de chance, quelque part, de recevoir toutes ces paroles de toi, toutes ces paroles précises, et de nous les retransmettre. Et Seigneur, on ne veut pas négliger ces choses. Seigneur, comme les autres passages de ta parole, ce n'est pas que l'épître aux Hébreux. Seigneur, aide-nous à obéir. Alors parfois, nous résistons à ta parole, nous savons qu'il y a quelque chose que nous devons faire et nous bloquons, nous résistons. Seigneur, nous endurcissons nos cœurs. Et je te prie que ça ne soit plus le cas, Seigneur. Touche nos cœurs, donne-nous d'être émus, Seigneur, dans nos entrailles en entendant ta parole et d'obéir, Seigneur, de te servir. Et merci de ce que toi, Seigneur, tu as montré l'exemple. Tu es rempli de miséricorde, des entrailles de miséricorde envers nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu n'es pas ce Dieu dur dont certains parlent. Seigneur, ça n'a aucun rapport avec toi. Merci parce que tu nous aimes profondément, Seigneur. Amen.